15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Excellent après-midi, Mélanie Gomez nous reçoit, oui, sans rendez-vous sur Europe 1, même pendant les vacances. Aujourd'hui, on s'intéresse aux vergetures avec la dermatologue Laurence Netter qui répondra à toutes nos questions. Mais d'abord, la neurophysiologie des contes de fées, sujet passionnant, vous allez le voir. Pourquoi la Belle au bois dormant s'endort-elle subitement? Pourquoi Simplet, le nain dans Blanche-Neige, rit à tout propos? N'y aurait-il pas derrière tout ça de véritables troubles neurologiques? Le neurologue Laurence Vercueil s'est penché sur la question et a mené l'enquête. Il est l'invité de Mélanie Gomez sur Europe 1. Bienvenue dans Sans Rendez-vous.
15h, 16h,
Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Vercueil.
Bonjour Mélanie.
Alors les contes de fées, ça nous parle à tous, hein. Enfin à moi en tout cas particulièrement, je ne sais pas vous Jimmy, on a tous rêvé sur La Belle au bois dormant, vous avez vu vous aussi tous les Disney notamment, voilà, tout ça, tous ces héros qui nous ont fait rêver. Plus récemment, le monde d'Harry Potter, vous m'aviez dit Jimmy que vous adoriez aussi, monsieur, c'est vraiment c'est votre génération.
Non mais je les ai lus, non mais je ne suis pas si vieux que ça Mélanie.
Bon d'accord, ok. En tout cas Harry Potter fait jouer l'imagination de beaucoup d'enfants aujourd'hui. Vous docteur, depuis combien de temps vous vous intéressez à la neurophysiologie des contes de fées?
Oh, ça fait déjà un petit moment. En fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, je suis parti de deux constats. Le premier, c'est que les maladies, les troubles neurologiques que je rencontre, ils sont pour la plupart pas récents. Ils existent depuis la nuit des temps. La nuit des temps, comme les contes dont on parle. Et la deuxième constat qu'on peut faire, que tout un chacun peut comprendre, c'est le fait que l'explication neurologique de ces troubles, elle est récente par contre.
Donc c'est
donc,
ça.
Il y a une époque où des manifestations bizarres, un peu étonnantes, déroutantes, pouvaient avoir une autre explication que celle à laquelle on pense depuis, mettons, 200, 300 ans, du moment que la clinique est devenue quelque chose de très répandu et de très compréhensible.
Jimmy ?
Et du coup, vous avez relu tous les contes pour enfants, vous avez fait
alors
ce travail.
Je suis plongé dans une littérature qui est très sympa à lire quand même.
C'est vrai.
C'est pas désagréable, effectivement,
les contes de Grimm, moi je recommande, vos auditeurs, c'est très chouette à
relire. À relire.
Et puis aussi, en gros, tout ce qui va tourner autour de ce monde du merveilleux, avec l'idée que le merveilleux, quelque part derrière, ça peut cacher du vrai. Ça peut cacher une réalité qui a existé, mais qui avait à l'époque une autre explication. Je vais prendre un exemple. Un trouble du langage. En neurologie, on appelle ça une aphasie.
Hein, vous dites ça parce que j'ai bafouillé tout à l'heure, je suis sûr. Me regardez en disant trouble du langage.
Si tout d'un coup, devant vous, je me mets à plan festin, tu me prends.
Oui, je préférais que vous parliez mieux, mais.
Ça, au point de vue neurologique, c'est une aphasie. Une aphasie très particulière parce qu'en fait, ce que je dis est incompréhensible.
Oui.
Et en même temps, lorsque je le dis, je ne suis pas en train de m'arrêter en me disant excusez-moi, je bafouille.
Non, vous y mettez le ton et tout. En plus,
je mets le ton, je suis assez convaincu de ce que je dis et je continue. Je trempe festin, aujourd'hui, vous vous dites, oh là là, mon invité a un problème de santé, il faut que j'appelle le SAMU,
c'est
un AVC.
J'hésite, mais j'ai Jimmy sur le plateau, donc je ne m'inquiète pas trop, il a quand même une formation d'urgentiste.
Mais placez-vous 500 ans en arrière, quelqu'un qui parle comme ça, qui ne s'arrête pas, qui semble croire à ce qu'il dit comme étant un moyen de communiquer quelque chose, on va se dire, ce sujet, il parle en langue. Parler en langue, ça s'appelle la glossolalie, ça fait partie des critères du rituel romain de possession. Ça veut dire que, par définition, je parle dans une langue qui n'est comprise par personne. C'est hyper grave, comprenez.
Et vous êtes surtout focalisé sur les, parce que vous êtes neurologue, hein, sur les problèmes neurologiques, hein, là dans ce bouquin, pas que ça, c'est-à-dire. Mais
voilà, moi j'ai pris mon œil de neurologue pour regarder ça. En même temps, si vous voulez, les troubles neurologiques, c'est quand même ceux qui atteignent la capacité qu'on a d'être en relation avec le monde, c'est-à-dire d'interagir avec les autres, mais aussi de comprendre les messages qui nous viennent de l'environnement, etc. Et donc tout ça, ça va retentir beaucoup sur le comportement.
Justement, docteur Vercueil, on va commencer par La Belle au bois dormant. Avec vous, on va décortiquer ce conte de fées pour voir quelle vérité scientifique se cache derrière. On écoute d'abord un petit extrait.
Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra.
Donc c'est maléfique, la méchante sorcière qui jette le sort à la princesse donc de La Belle au bois dormant.
Heureusement, il y a une autre fée qui arrive et qui va atténuer le sort, puisqu'elle ne va pas mourir,
c'est ça.
Mais elle dormira 100 ans.
Et alors justement, c'est ça qui nous intéresse. De quoi elle est atteinte, cette princesse du conte de Perrault là?
En fait, pour ça, il faut faire une analyse clinique. C'est-à-dire qu'on reprend toute l'histoire et on l'analyse avec l'œil neurologique en se disant, bon, ok, c'est une adolescente qui a une enfance pépère, visiblement.
Ouais, ça va, princesse.
Plutôt très protégée, parce que en fait, le roi, comme il est averti du sort, il va exclure tous les fuseaux de l'entourage. Et normalement, il n'y a pas de fuseaux nulle part. Mais voilà que vers 15-16 ans, et dans pas mal de fixations du conte, on mentionne l'âge de 15-16 ans, donc c'est vraiment une ado. Elle découvre dans une comble, etc., une petite vieille qui n'était pas au courant et qui a gardé son fuseau, et elle se pique. Et lorsqu'elle se pique, elle tombe endormie très très profondément, très brutalement, durablement.
Ça, c'est juste les ados qui vivent de l'hypersomnie. On dit tous les ados dorment beaucoup, donc c'est juste ça ?
Non. Alors, à mon avis, ça va un peu plus loin que
ça. Parce qu'elle dort longtemps.
Donc, on reprend une ado jeune, pas d'antécédent, qui va bien, qui tout d'un coup présente un endormissement brutal à l'occasion soit d'une petite douleur, soit d'une émotion, parce que peut-être aussi l'émotion. Tout d'un coup, elle réalise, mince, le fuseau, je me pique.
C'était interdit.
C'est interdit, etc. Donc, émotion, endormissement brutal. Endormissement, en tout cas, apparence d'endormissement. Mais en fait, en neurologie, le docteur House, notre maître à tous, nous a appris de douter de tout. Donc, ça. On doit douter. Ok, elle paraît dormir, mais est-ce qu'elle dort vraiment ? Est-ce qu'elle n'a pas fait un AVC ? Est-ce qu'elle n'est pas empoisonnée au curare ? Est-ce que le fuseau n'était pas plein de poison ? Voilà, donc on peut se poser plein de questions. Et en fait, si vous voulez, ce conte est merveilleux, même pour moi, neurologue, parce que ça me permet de développer ce qu'est la méthode neurologique, ce qu'est la méthode de l'analyse clinique. Comment est-ce qu'on soulève des hypothèses, on les teste, on en doute, et on essaie d'acheminer comme ça vers le diagnostic.
Jimmy ?
Je suis absorbé, passionné par ce que vous dites. Est-ce qu'elle l'aurait pas, par exemple, je sais pas, la narcolepsie, est-ce que ça pourrait être une hypothèse ?
C'est une hypothèse qui tient bien la route. En fait, si on prend une ado 15 ans qui s'endort brutalement, on tombe sur les hypersomnies de l'adolescent. Alors effectivement, vous avez raison Mélanie, c'est fréquent les ados qui dorment.
Ils font la grasse mat, quoi, mais ils dorment pas pendant un siècle. Quoi.
Voilà, ils dorment pas pendant un siècle. Par contre, il y a authentiquement des hypersomnies vraiment réelles qui constituent des troubles de la santé dans la mesure où ça a un impact majeur sur le quotidien de ces ados, qui sont notamment la narcolepsie. Alors la narcolepsie en plus, alors là c'est vraiment tout trouvé parce que c'est l'endormissement brutal, c'est les endormissements à l'occasion d'émotions, de douleurs, etc. Donc ça ressemble beaucoup.
Ça pourrait être ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui existe pour les adolescents. Il y a un syndrome qui porte d'ailleurs son nom, cette princesse.
C'est le syndrome de Klein-Levin qui touche les adolescents de manière spécifique et qui aux États-Unis s'appelle le Sleeping Beauty Syndrome.
Ah, le syndrome de la belle au bois dormant.
Exactement. Et qui concerne donc des adolescents qui vont présenter des phases de sommeil, des périodes de sommeil très prolongées, alors plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, de manière inexplicable et récurrente, ça se répète.
C'est plutôt ça, non ? Alors, ce qu'elle a, la belle au bois dormant, non ?
Le problème, c'est qu'ils ont... D'abord, ils ne s'endorment pas brutalement comme ça. Ils ont vraiment une somnolence excessive, très importante du sommeil, mais ils n'ont pas le côté endormissement brutal de la narcolepsie, par exemple. Et puis, ils ont quand même des petites phases d'éveil. Même s'ils dorment 16 heures, 20 heures par jour, ils ont des petites phases d'éveil. Et pendant ces phases d'éveil...
20 heures par jour, ils dorment, ces gens ?
Ils vont avoir un comportement très particulier, soit hyperphagique, c'est-à-dire qu'ils vont manger.
Ah oui, parce qu'ils dorment tout le reste du temps, donc il faut bien se nourrir à un moment donné, c'est ça ?
Oui, ça paraît quand même au-delà des besoins nutritionnels, disons, on va dire. C'est vraiment un comportement un peu boulimique ou hypersexuel aussi. Ils ont une hypersexualité dans les petits moments d'éveil qu'ils ont.
Il n'y a pas de sexualité dans la belle au bois dormant, enfin je ne m'en souviens pas en tout cas.
Jimmy ? Non, pas dans la version qu'on avait regardée. Mais justement, est-ce que ces cas cliniques là, est-ce que vous pensez que c'est des cas qui ont existé et qui ont été transposés dans des contes ou c'est finalement l'imaginaire, et puis nous, on a cherché à faire des diagnostics, et puis on tombe sur le syndrome de la belle au bois dormant.
Les deux. C'est-à-dire que notre imaginaire est taillé aussi pour expliquer le réel. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant quelque chose qu'on ne comprend pas, eh bien, on fait fonctionner notre imaginaire pour nous créer une théorie de ce qu'on ne comprend pas. Et ça, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas existé aussi 100 ans, 1000 ans en arrière, parce que les contes dont on parle...
Perrault, il a pu être inspiré de choses comme ça, c'est possible.
Alors Perrault, lui, il a fait partie de ceux qui ont collecté et fixé par écrit les contes. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, le conte. Il l'a récupéré d'un continent de contes populaires qui existaient à l'époque et dont on peut faire remonter la genèse à des milliers d'années auparavant.
Encore plus loin,
donc, en gros, il s'est passé des choses qui sortaient de l'ordinaire, peut-être neurologiques.
Peut-être qu'il y a 1000 ans, il y avait des enfants, comme ça, des ados qui avaient le Klein-Levin, mais qui ne savaient pas ce syndrome de la
belle au bois dormant. Exactement, ou des narcolepsies. Et que ça, le récit s'en saisit. Et il va avoir une fortune, c'est-à-dire il va être transmis, parce que c'est une transmission orale. C'est avant qu'on les fixe, les Grimm, Perrault, etc., c'était oral. La fortune est notamment conditionnée par la possibilité qu'ils ont d'expliquer ce qui se passe en vrai.
Et justement, dans la suite du conte, à un moment, tout le royaume s'endort d'un coup et vous dites que c'est vraiment arrivé, cette histoire en réalité.
Oui, alors, parce qu'en fait, à cette époque-là, au XVIIe siècle, au moment où les premiers folkloristes, Perrault, un peu plus tard, les frères Grimm, envoient leurs collecteurs, ils avaient des armées de gens qui allaient dans les campagnes pour récupérer ces histoires, au moment où ils les fixent, il y a eu des épidémies d'encéphalite léthargique. Encéphalite léthargique, ça veut dire inflammation du cerveau qui entraîne le sommeil. Mais comme c'est épidémique, c'est pas du coronavirus, c'est autre chose. Les gens se mettent à dormir massivement.
Dans un village qui dort.
Dans un village.
C'est incroyable.
Tout le monde dort. Et on est fin du XVIIe siècle. Plusieurs épidémies au Danemark, en Angleterre. Deux villages entiers qui sont mis dans le sommeil à cause de cette encéphalite léthargique.
Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple donc de la belle au bois dormant ?
Avec le
peuple autour de la Belle au bois dormant, les villages autour, tout le monde,
c'est
tout le tout château d'or.
Tout le monde dort.
C'est ça, tout le monde dort.
Exactement.
Ils ont donc une encéphalite virale générale.
Voilà.
C'est ça. Docteur Vercueil, on va continuer cette discussion passionnante. Bien sûr, on reste ensemble.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurent Vercueil. Il est neurologue au CHU de Grenoble-Alpes et chercheur à l'INSERM. Il est également l'auteur de « La belle au bois dort-elle vraiment ?» chez Humaine Science. C'est pour ça que vous invitez aujourd'hui, docteur Vercueil. Les problèmes neurologiques des personnages fantastiques, on a déjà parlé un petit peu de « La belle au bois dormant » juste avant, mais ils se distinguent vraiment par le comportement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Si on prend les zombies, par exemple, ça c'est un fantastique, je ne sais pas, mais c'est des êtres imaginaires. Ils sont comment, les zombies?
En fait, voilà, c'est ça. Alors, lorsqu'on approche cliniquement le zombie, on le résume un petit peu à ses caractéristiques.
C'est dingue, hein, Jimmy, on dirait que lui, il l'a vu vraiment, le zombie.
Oui, c'est clair,
hein.
Vous le vendez très bien.
Exactement,
c'est clair,
j'en ai dit, c'est plein. On le résume en fait à ses caractéristiques les plus générales. C'est-à-dire, il a une façon de marcher qui est très particulière, hein, les jambes très écartées, un peu saccadées. Et puis, à l'intérieur, il semble vide. Donc, on a l'impression qu'il ne va pas avoir de mémoire, il n'a pas de conscience de lui-même. Il a pas, donc, on se dit, il y a un problème d'équilibre et de marche. Ça, dans le cerveau, c'est le cervelet. Et souvent, un problème de mémoire, ça, c'est l'hippocampe. Hein, les structures qui créent du souvenir, c'est l'hippocampe. Donc, il doit avoir du mal à faire fonctionner ses hippocampes et du mal à faire fonctionner son cervelet qui lui permet d'avoir un bon équilibre, d'être stable, de pouvoir marcher sur une ligne, par exemple, en funambule.
Non, mais attendez, là, vous êtes gentil, on parle de zombies. Donc, médicalement, là, vous êtes en train de nous expliquer quelque chose à propos des zombies, c'est-à-dire qu'ils pourraient exister.
Jimmy, il y a peur, attention, docteur. Rassurez-nous, il n'y en a pas de zombies.
Alors, moi, j'en ai vu beaucoup au cinéma, par exemple.
C'est ça.
J'en ai croisé.
Mais pas dans votre hôpital.
Sur les écrans. Et en fait, qu'est-ce qui peut donner comme ça un tel mauvais fonctionnement, à la fois du cervelet, l'organe de l'équilibre, et des hippocampes? Eh bien, on sait que ces deux structures dans le cerveau partagent une même propriété, qui est une sensibilité majeure à l'anoxie, c'est-à-dire à la privation d'oxygène. Quand on coupe l'oxygène au cerveau, les deux structures qui meurent le plus vite possible, c'est les hippocampes et le cervelet.
Donc ça
ce qui veut dire que potentiellement, ce dont souffrent les zombies, c'est un défaut d'oxygénation de ces deux structures.
Pas tout
ça veut
mort.
Dire qu'à un moment donné, ils sont passés par un arrêt cardio-respiratoire.
Donc ils sont morts.
Et c'est pas l'histoire des zombies, ça?
Si, c'est ça, c'est exactement ça.
Ils ont cette démarche, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Là, je suis bluffé.
Ouais,
là,
je suis incroyable.
Ouais, ah, mais non, mais là, c'est l'histoire de la médecine telle que je veux l'apprendre. Là, je veux plus apprendre de la médecine classique, je vais apprendre. Non, mais
l'histoire des zombies.
Bah oui, c'est tellement plus classe. Moi, je suis chiant avec mes grippes et mes machins.
C'est ça.
Et vous arrivez. Voilà.
Il y a les nains aussi. Dans votre livre, vous parlez des nains et des géants. Et là, bon, c'est plutôt une histoire hormonale, hein, je crois.
Voilà, c'est ça. Là, je sors un petit peu du domaine neurologique, mais c'est pour bien expliquer pourquoi j'ai cette approche.
Les géants, par exemple.
Par exemple, en gros. Notre cerveau, c'est un gros organe prédicteur. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir devant nous, dans l'entourage, des gens de taille variable. On est habitué à ça. Mais dans des mesures, qui sont des mesures en fait statistiques. C'est-à-dire que les gens qu'on croise, globalement, ils sont entre, mettons, 2 mètres et 1 m60. Je dis n'importe quoi. Quand ça sort de ça, le cerveau, il aborde un terrain qui est inconnu. Il dit, c'est pas normal d'être si grand, ou c'est pas normal d'être si petit. À ce moment-là, il est obligé de générer une théorie. De dire pourquoi est-ce que les gens sont tout petits, pourquoi est-ce que les gens sont très grands. Alors aujourd'hui, on n'a pas de théorie. On sait que c'est des problèmes médicaux, on sait que c'est des problèmes d'hormones de croissance, etc.
Ouais.
On a la médecine. Mais à l'époque, il n'y avait pas de médecine. Ben, on mobilisait le surnaturel, on mobilisait le merveilleux. Et donc, on crée des personnages. Ça crée
des géants terribles qui mangent les enfants. Etc.
Et ce qui est intéressant, c'est que cet imaginaire-là, il pouvait être réalimenté ensuite par la réalité lorsque on tombait, à l'époque, je parle il y a 500 ans en arrière, sur par exemple des os fossilisés. D'animaux préhistoriques.
Bien sûr.
Parce que là, c'était la preuve que les géants existaient, puisqu'on trouvait des ossements
de géants.
C'était de géants.
C'est extraordinaire. Jimmy.
Alors maintenant, on veut l'explication des lutins. Est-ce que les lutins ont existé?
Et vous les aimez bien, les lutins, vous?
Oui,
hein,
ceux qui mettent le bazar la nuit, qui détruisent tout sur leur passage. Donnez-moi. Non, mais là, oui, j'en peux plus. Là,
les lutins domestiques, hein, ce sont des habitants des campagnes, alors vraiment qui ont traversé les âges. Hein, et encore au XXe siècle, hein, le siècle dernier. Beaucoup de folkloristes ramenaient des récits de lutins qui peuplaient les fermes, etc., surtout dans les campagnes, et dont en fait on observait surtout les méfaits, c'est-à-dire les renversements de peau, les bruits la nuit.
Le linge qui est sorti de là où il devait être, etc.
Les cheveux emmêlés, etc. C'était les lutins domestiques.
On les voit pas, mais ils ont
la nuit. On les voit pas parce qu'ils sont tout petits, donc ils passent à travers les murs, on n'arrive pas à les voir, mais on observe leurs méfaits.
Justement, il y a un lutin, un elfe domestique, même bien connu de ceux qui ont dévoré la saga Harry Potter, le fameux Dobby, on écoute son extrait.
Harry Potter, C'est un si grand honneur.
Qui êtes-vous?
Dobby. Monsieur Dobby, l'elfe de maison.
Oh, j'ai très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby!
Arrêtez Dobby. Bon, alors c'est Dobby, l'elfe de maison. Bon, Harry Potter, il a la chance de le voir parce qu'il est magicien, hein, mais nous, on les voit
nous,
pas.
Non, on voit pas. Non, c'est bien ça. Sûr. En fait, l'elfe Dobby, c'est un petit peu une déclinaison de ce lutin domestique, typiquement, qui est attaché à une demeure et qui va produire des effets dont on ne connaîtra pas la cause puisqu'on ne le voit pas.
On les a inventés pour expliquer notre bazar, quoi, c'est ça?
Alors, c'est un petit peu ça, hein, pour expliquer tout ce qui veut se passer la nuit et qui va faire que le pot de confiture est renversé, il y a des bruits, ça tape, les lutins sont tapageurs, hein, donc il y a du bruit dans la maison, c'est les lutins.
Jimmy?
Et ceux qui pensent que la nuit, ils ont entendu des bruits en disant que c'était des lutins. Est-ce qu'on peut les croire alors, en fait?
Ah, je pense qu'il faut les croire, bien sûr. Il faut les croire. Mais ils ont eu besoin de générer un personnage pour expliquer ce qu'ils entendaient.
C'est pas parce qu'il y avait le mari qui était somnambule juste et qui foutait la pagaille à côté. C'était alors, pas un lutin.
Exactement, ça peut être un exemple. Un somnambulisme, quelqu'un qui va se déplacer, renverser les objets, se recoucher, avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit et le matin, au réveil, constater les dégâts. Et si c'est pas moi alors, bah, c'est des lutins.
Forcément. Et les elfes aussi, donc ils ont un faciès particulier. Là, vous l'expliquez par le syndrome de Williams. C'est quoi ça, ouais, les elfes et le syndrome de Williams?
Alors, les elfes, c'est des personnages qui ont connu, notamment avec Tolkien, une version de plus en plus loin de l'origine. Hein. Mmh. Mais au départ, c'est plutôt la mythologie nordique. C'est des elfes de petite taille, avec quand même des qualifications qui sont bien, bien présentes, qui sont très sociables. Très porté vers la musique, avec des traits physiques qui, à une époque, étaient plutôt grande bouche, un nez un petit peu retroussé, et qui sont des caractéristiques qui ont été identifiées comme étant celles du syndrome de Williams. Le syndrome de Williams, donc, c'est un syndrome génétique qui entraîne des troubles, un handicap cognitif, et des traits particuliers, et notamment une très, très importante empathie. Ah. C'est-à-dire que ce sont des enfants dont tous les gens qui s'occupent d'eux disent que le matin, lorsqu'ils vont les voir, ils savent très bien dans quel état on se trouve. Tiens, aujourd'hui, t'es pas très bien, tu es pas très...
Ah oui.
Ils ont une très
comme
grande empathie.
Elfes, quoi, c'est ça.
Et un goût pour la musique. Sur Internet, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a une jeune femme atteinte d'un syndrome de Williams qui chante, qui fait du chant lyrique à un très très haut niveau et qui est très identifiée comme elle.
Et il y a même une ressemblance un peu physique avec ce syndrome et les elfes, hein, c'est ça?
Oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire, alors, c'est pas très radiophonique, ouais, mais effectivement, les syndromes de Williams ont un faciès qui est assez proche de celui qui est décrit dans les elfes.
Jimmy?
Bon, rassurez-nous, est-ce qu'il y a quand même des personnages qui n'ont pas de maladie? Bon, même si c'est pas très grave d'être malade, mais est-ce qu'il y en a quand même qui vont bien? Je sais pas, le petit pousset, ou le petit chaperon rouge?
Bien
ouais,
sûr,
elle va bien,
évidemment.
Le petit chaperon rouge, à part qu'elle se fait manger par le loup, mais bon, elle s'en sort à la fin.
C'est non, je veux surtout pas être accusé de désenchanté ou de tout neurologiser ou tout nous médicaliser. C'est clair, hein, moi, je pioche un petit peu avec mon œil de neurologue les personnages où je me dis, tiens, ça c'est un trait de comportement.
Le chaperon rouge, elle a rien. Hein.
Non, elle va très bien, la chaperon rouge, je confirme.
Par contre, dans le chaperon rouge, il y a un autre personnage qui, lui, va peut-être moins bien. En tout cas, il est très méchant, il nous fait très très peur. C'est le grand méchant loup. Le grand méchant loup, d'ailleurs, des loups, en fait, il y en a partout, dans plein de contes, et c'est toujours l'animal qui nous fait peur, l'animal méchant. Pourtant, des animaux sauvages, il y en a plein. Pourquoi on a choisi le loup dans ces contes pour comme représentant du mal et de personnages méchants?
Oh, je pense qu'il a mobilisé une mythologie très très riche. Hein. Le loup, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été utilisé. On avait sûrement aussi besoin, en tant que parents, d'un personnage un peu effrayant pour avoir un impact émotionnel sur les enfants. Donc ça marche, le loup, ça marchait mieux que Louis Titi, par exemple.
C'est vrai.
Effectivement, là, ça marque un point.
C'est clair. Mais alors, il y a loup et loup, par contre. Le loup, bon, l'animal qui fait peur, mais il y a aussi le loup-garou. Alors là, c'est un personnage qui fait encore plus peur. C'est une espèce de métamorphose entre l'homme et le loup. Comment il est arrivé? Comment on peut expliquer, peut-être médicalement, entre guillemets, la création de ce personnage?
Ben, en fait, on se replonge à nouveau 500 ans en arrière. On se dit, OK, ce sont des gens qui n'interviennent que la nuit, qui sont clairement stigmatisés, qui sont en dehors de la population du village, par exemple. Et lorsqu'on les surprend la nuit, ben ils ont une apparence qui est effrayante et ils ont un comportement qui est agressif. Alors,
c'est
si
les exclus de la société.
Ben voilà, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont exclus, peut-être à cause de leur apparence, par exemple, ils sont très hirsutes, ils ont une chevelure très abondante avec des poils qui poussent partout, comme on peut le voir dans certaines affections dermatologiques, ils sont rejetés. Du coup, pour survivre, ben ils vont aller vivre aux marges des villages, ne se présenter que nuitamment, pour faire des petits chapardages, leur permettre de survivre, prendre un peu de nourriture, voler une poule pour vivre. Et s'ils sont surpris, bah ils se défendent, c'est normal. Donc ils vont être éventuellement agressifs parce qu'ils veulent sauver leur peau.
Bon docteur, on va revenir à des personnages plus sympas.
Héros, 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 héros.
Vous les aurez reconnus, c'était donc la chanson des sept nains dans Blanche-Neige. On s'en rappelle tous, je vois Jimmy qui sourit, ah je sais oui, pas, ça vous donne oui. envie de faire hé-ho, hé-ho. On va parler d'un nain en particulier, c'est le personnage de Simplet. Il y a quoi comme particularité neurologique, je sais pas.
Alors c'est très étonnant comme histoire. Simplet, il est présenté par prof, le chef des nains là, à Blanche-Neige, en disant bah voilà, voilà Simplet, ou dopé en anglais. Il ne parle pas. Il ne parle pas, c'est ce que dit le prof. Hein. Donc, et de fait, dans le dessin animé, il ne parle pas. Mais il comprend très bien ce qu'on lui dit. Et il présente un autre trait du comportement, qui est le fait qu'il est toujours joyeux. Il a une grande bouche avec une langue qui sort et il rit tout le temps. Et enfin, il est extrêmement maladroit. Il tombe, il se prend les pieds, il renverse tout, etc. Or, il se trouve que toutes ces caractéristiques, à la fois comportementales et physiques, c'est-à-dire ne pas avoir de langage, mais comprendre le langage qui est exprimé auprès de lui, comprendre des consignes, etc., avoir une tendance à rire de tout, de rien, avoir une grande maladresse, ce qu'on appelle en neurologie une ataxie, c'est-à-dire une difficulté à s'équilibrer, c'est les caractéristiques d'un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Engelmann. Or, le syndrome d'Engelmann ne sera décrit que 28 ans après le dessin animé de Walt Disney.
Vous comprenez tout, Jimmy, là. C'est incroyable.
Et ça veut dire que Disney, peut-être, avait un enfant qui aurait Exactement. Cette maladie, mais qu'on ne connaissait voilà. pas et on n'avait pas de nom.
C'est vraiment l'hypothèse qu'on a, c'est que peut-être que dans l'entourage de Disney, ou éventuellement d'un des dessinateurs, hein, des gens qui ont contribué, il y avait un enfant qui avait un syndrome d'Engelmann, parce que le syndrome d'Engelmann n'est pas né avec Engelmann. Bien sûr, il existait avant. Engelmann, c'est juste le médecin qui a décrit ce syndrome. Dans l'entourage et qui a servi un petit peu de modèle parce que la coïncidence est tellement frappante qu'on se demande s'il y avait une autre possibilité.
Bon, Jimmy, on a terminé, je suis désolée. Ah, vous en vouliez plein d'autres,
non,
hein,
mais
de personnages.
Non, mais votre livre, il faut l'acheter, il faut le lire, il faut le proposer aussi aux enfants parce que ça éveille la curiosité. Donc, vraiment, voilà. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou vraiment de vous avoir. On est vraiment ravis.
Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre plateau nous décrypter donc, d'un point de vue médical ce monde merveilleux des contes de fées. Je rappelle bien sûr le titre de votre livre, La Belle au Bois dort-elle vraiment ? Neurophysiologie des contes de fées aux éditions Humaine Science. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va faire un point sur le microbiote, notre flore intestinale. On va vous parler de travaux scientifiques assez fascinants. Des chercheurs du MIT vont récupérer des échantillons de microbiote partout dans le monde, chez des peuples encore épargnés par l'industrialisation. On va partir au Sénégal, vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de microbiote. Savez-vous ce qu'est vraiment la flore intestinale ? À quoi elle contribue dans votre organisme ? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est pas des boutons au sein de l'estomac et qui provoquent des inflammations.
C'est les bactéries du corps, mais qui sont bonnes pour notre santé. Donc ça peut être le microbiote intestinal, c'est les bactéries qui vont nous aider à digérer certains aliments.
Bah déjà, je pense que pour rebooster son microbiote, il faut déjà avoir une alimentation saine et équilibrée qui déjà te protège un peu naturellement de tout ce que tu peux attraper, des rhumes, de la grippe et autres.
Tout ce qui est fibres, tout ce qui est légumes, tout ça. Je pense qu'il y a des graines aussi.
On parle aussi souvent maintenant de la greffe fécale. Pour ça
Non, je ne savais pas que ça existait. Là, vous me l'apprenez.
La greffe fécale.
Moi, je n'y crois pas du tout, mais c'est comme les probiotiques. On fait ce qu'on dit de la greffe fécale, c'est qu'en fait, on instaure le microbiote qui se retrouve dans les fécales de quelqu'un qui vit avec nous et qui, du coup, doit normalement avoir un microbiote similaire à celui qu'on avait avant d'être malade et pour le réinstaurer et pour ne pas avoir de problème de santé après.
Alors, pour parler du microbiote, on a convié sur le plateau Cécile Coumeau. Cécile, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes journaliste santé. Ces bactéries intestinales, vous les avez vues de près. Vous êtes même partie au Sénégal avec des chercheurs qui veulent préserver ces bactéries. Alors, pourquoi une telle expédition ?
Eh bien, parce que ces bactéries intestinales, qui forment donc ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, sont menacées de disparition. À force de manger de la nourriture industrialisée, d'avaler des antibiotiques et puis de faire un peu la chasse à tous les microbes qui nous entourent, ces bactéries qui habitent donc nos intestins disparaissent. Et ça nous rend plus vulnérables. Quand notre microbiote est déséquilibré, eh bien finalement, on risque de développer des maladies.
Et alors, quelles maladies justement, Cécile ?
Alors, les principales, c'est des maladies chroniques de l'intestin, mais aussi l'obésité, le diabète, les allergies. On découvre tous les jours des liens finalement entre le microbiote intestinal et notre santé. C'est une vraie révolution scientifique qui est en train de se passer devant nos yeux actuellement.
Jimmy ?
Mais ces chercheurs, que vous avez suivis, qui sont allés jusqu'au fin fond du Sénégal, pourquoi aller aussi loin pour recueillir des bactéries qu'on a tous
sur ce plateau-là, Mélanie a des
moi,
bactéries
j'en ai pas, non,
dans son sujet. Mais pourquoi on est parti aussi loin ?
Mais en fait, comme ces bactéries elles sont menacées par notre mode de vie industriel, ces deux chercheurs, qui sont français d'ailleurs, il faut le dire, Mathilde Poyer et Mathieu Groussin, ils ont eu l'idée d'aller partout dans le monde pour rencontrer des populations qui sont très isolées. Le but, c'est de recueillir des sels et d'en extraire les bactéries, de rapporter le tout à Boston et de tout mettre dans une biobanque. Alors moi, je les ai suivis chez les Bédiques, c'est un peuple du Sénégal, mais ils sont déjà allés dans 11 pays, partout sur la planète. Et globalement, ça se confirme, nous n'avons pas tous le même microbiote, comme nous l'explique Mathilde.
C'est simple, à chaque fois qu'on essaye de cultiver les bactéries à partir d'un échantillon de microbiome, on parle en dizaines d'espèces. C'est un nombre d'espèces inconnues, c'est une espèce d'inconnu général. Honnêtement, on s'y attendait. À ce niveau-là, non, quand même pas. C'est assez fantastique. C'est même pas juste des espèces, c'est parfois même à l'échelle d'un genre complet nouveau.
Alors, c'est très intéressant, hein, Cécile. C'est un musée de bactéries, en quelque sorte. Et ça va servir à quoi, concrètement, Cécile ?
Alors, cette biobanque, qui s'appelle le Global Microbiome Conservancy, elle va permettre aux chercheurs du monde entier, finalement, de mener des recherches sur ces bactéries qui sont en voie de disparition, pour mieux comprendre leur rôle et surtout donc le lien avec notre santé. Et le but ultime, c'est bien sûr de pouvoir mettre au point des médicaments, peut-être des cocktails de bactéries, contre ces maladies du monde moderne qui nous touchent, nous occidentaux, mais qui vont bientôt toucher ces peuples qui sont isolés, parce que vous le savez, hein, l'industrialisation, elle gagne du terrain partout dans le monde.
Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette expédition scientifique passionnante que vous avez suivie pour Europe 1 au Sénégal, je vous invite à aller écouter l'intégralité de votre reportage. Vous pouvez retrouver le podcast, évidemment. Merci beaucoup Cécile.
Merci Mélanie.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Netter.
Bonjour Mélanie.
D'abord docteur Netter, on va revenir à la base. Expliquez-nous ce que c'est physiologiquement, une vergeture. D'ailleurs, vergeture, ça vient, ce mot, là j'ai toujours un peu du mal à le dire. Vergeture, ça vient de quoi ?
Vergeture, ça vient de verge, mais pas la verge. La verge, le bâton. On employait le mot verge pour décrire un bâton au XVIe siècle. Et c'est des lésions qui ressemblent à des coups de bâton. Alors effectivement, les vergetures, ce sont des lésions linéaires que l'on retrouve un petit peu partout sur le corps avec une prédominance au niveau du ventre, au niveau des hanches, sous les seins, et qui sont linéaires, qui sont en général orientées dans le sens de tension de la peau et qui sont des cicatrices en fait du derme qui sont dues la plupart du temps à un étirement de la peau avec certains facteurs favorisant derrière.
Jimmy ?
Et les vergetures, je crois qu'elles évoluent avec le temps. Elles ne sont pas toutes toujours de la même couleur.
Non, vous avez entièrement raison, Jimmy. Elles apparaissent, quand elles apparaissent, elles sont d'abord inflammatoires, rouges, violacées. Et puis avec le temps, elles vont devenir lisses, atrophiques, blancs, avec un aspect fripé dessus.
Donc rouge violet, puis ça tire vers le blanc. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde, les vergetures, par rapport, si on prend la population complète, combien de gens auront ce type de problème ?
Un Français,
ouais, n'importe qui, un humain.
Une personne sur deux est sujet à avoir quelques vergetures avec des gros facteurs favorisants et
on va
des
en parler
âges.
Juste après, bien voilà. Sûr, mais c'est plutôt les femmes quand même que les hommes ou pas ?
Non, les hommes peuvent avoir des vergetures, c'est surtout les femmes, puisque la grossesse est un des gros facteurs de risque des vergetures. Mais les hommes, et surtout les hommes sportifs, et ceux encore plus qui font du bodybuilding,
on en parlera aussi un petit peu après, mais
sont plus exposés que la plupart des
juste rapidement des personnes. les zones touchées chez les femmes et chez les hommes, c'est pas forcément les mêmes.
C'est pas forcément les zones
justement.
Alors les zones touchées chez la femme, c'est pendant l'adolescence, sous les seins, les hanches, c'est-à-dire les zones qui vont prendre du volume pendant l'adolescence, et chez la femme enceinte, évidemment,
le
bas du ventre dans sa partie ronde.
Et les hommes, ça plutôt...
Les hommes, ce sont souvent les zones très musculaires, la racine des membres, l'intérieur des cuisses, le bas du dos, qu'on retrouve très rarement chez les femmes, et les épaules.
Alors, Laurence, il y a, je crois, deux grandes périodes, on l'a un petit peu dit juste avant, deux grandes périodes dans la vie d'une femme où on développe des vergetures, ce sont lesquelles ces périodes-là ?
Alors, on développe des vergetures avec deux choses à la clé. Une distension, voire même d'ailleurs un amaigrissement brutale des tissus. Et derrière, il y a des facteurs qui sont des facteurs essentiellement hormonaux qui vont fragiliser la peau. La conjonction de ces deux facteurs fait que la peau va craquer. C'est une maladie, un symptôme du derme. Et donc, les grandes périodes de la vie où on risque de développer des vergetures, c'est l'adolescence, puisque enfant, on a des surrénales qui ne fonctionnent quasiment pas.
Les surrénales, c'est
quoi ? Les surrénales, ce sont des petites glandes qui fabriquent des hormones qui sont situées à côté du rein. Et dans la partie supérieure de ces surrénales, on a une zone qui fabrique ce qu'on appelle des glucocorticoïdes, qui sont des hormones qui vont fragiliser la peau. C'est le fameux cortisol, l'hormone de la grossesse.
Comme pour avoir des problèmes de peau. D'accord.
Exactement. Et donc, à la puberté, il y a la conjonction de la prise de forme au niveau des seins,
les
au niveau des hanches.
Les seins poussent, on s'élargit un peu.
Et, voilà. Ouais. Et le cortisol qui fragilise la peau. Et les deux facteurs combinés font que la peau peut craquer. Pareil pendant la grossesse.
Oui, vous l'avez un petit peu, vous l'avez dit pendant la grossesse, mais toutes les femmes n'auront pas des vergetures. Comment on peut expliquer ça ? Est-ce que certaines vont en développer plus que d'autres ?
Il y a indiscutablement des facteurs familiaux. La génétique joue dans l'apparition des vergetures. Il y a des facteurs raciaux. Il y a des origines qui font que la peau est plus fragile que d'autres.
C'est-à-dire quelles origines sont plus...
Il y a par exemple une étude qui a été faite aux États-Unis qui a montré que les Noirs américains ont plus de risques que les populations blanches de faire des vergetures pendant la grossesse.
Ah oui, la peau noire, la peau afro-américaine en tout cas, dans cette étude, montre plus souvent de vergetures que la peau blanche.
Exactement. D'accord. Donc il y a des facteurs qui sont des facteurs génétiques.
Ils ont une peau plus fragile, quoi.
Environnementaux également.
Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans la peau à ce moment-là ? Alors là, vous parliez des peaux des Afro-Américains, mais qu'est-ce qui dysfonctionne ? C'est un problème de collagène ? Qu'est-ce qui s'étire ou qu'est-ce qui craque réellement ?
C'est une maladie du derme. La peau, c'est trois couches : l'épiderme superficiel, le derme, et en dessous, l'hypoderme. Et tout se passe dans le derme. Dans le derme, la principale cellule s'appelle le fibroblaste. Et le fibroblaste est une cellule qui synthétise les fibres collagène, élastine et ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Eh bien, on sait aujourd'hui que les vergetures, c'est une maladie du fibroblaste. Le fibroblaste est une cellule qui est très sensible à l'étirement. Et les vergetures sont un dysfonctionnement de cette cellule qu'on appelle le fibroblaste.
D'accord. Jimmy ?
Je ne fais jamais de sport et encore moins de musculation.
On l'aura compris dans cette émission, vous le dites assez souvent. Hein.
Et non, parce que je n'aime pas ce diktat qu'il faut absolument faire de la musculation. Donc
par esprit de contradiction, il n'en fait pas.
Du sport, oui.
Du sport, bon, c'est encore autre chose. Mais la musculation, du coup, je n'en fais pas. Et apparemment, ça ne serait pas bon, justement, chez les hommes. Ils pourraient avoir des vergetures à cause de cela.
Alors, on va retrouver le même facteur de risque, qui est l'étirement d'une zone. Et les vergetures sont assez fréquentes chez les hommes qui usent et qui abusent de produits qui sont ce qu'on appelle anabolisants.
Ah, c'est pas juste le fait de faire de la gonflette que les muscles prennent en volume, c'est aussi les produits là qui jouent.
Ouais. On peut ne rien prendre et avoir des vergetures parce que la peau craque. Mmh. Mais il y a énormément de culturistes qui prennent et qui achètent sur Internet des produits dont on connaît assez mal l'origine et qui contiennent des hormones, des anabolisants. Et on retrouve du coup les deux facteurs de risque qui sont l'étirement, un facteur volumétrique, et la prise de ces hormones qui fragilisent la peau.
Et justement, docteur Néter, on va évidemment poursuivre cet entretien. Vous restez avec nous.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurence Néter, elle est dermatologue à Paris. Alors docteur Néter, on va passer au traitement à présent des vergetures. Je crois que vous dites qu'il n'y a aucun traitement finalement pour éliminer définitivement les vergetures. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Enfin, tous les traitements dont on va parler derrière, c'est finalement pour les atténuer la gêne esthétique, c'est ça ?
Aujourd'hui, il faut déjà mettre en place des règles hygiéno-diététiques, toujours la prévention. La prévention, c'est avoir une bonne hygiène alimentaire, ne pas faire le yo-yo avec son poids, parce que la prise de poids donne des vergetures, mais une fois que la vergeture est là, ou alors une fois qu'on est en situation, par exemple pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui a prouvé l'efficacité d'une crème en prévention. Mais nous, médecins, il faut quand même donner des conseils aux patients.
Beaucoup de femmes passent de l'huile d'amande douce sur le ventre.
L'hydratation. Sans qu'aucune étude n'ait prouvé vraiment l'efficacité de l'hydratation, mais on peut imaginer que d'avoir une peau bien huilée,
bien
sur un élastique, eh bien, l'élastique il va réagir.
Mieux s'étirer.
Voilà. Donc, acheter
C'est un peu intuitif comme ça, mais il n'y a pas d'étude clinique qui le prouve, en tout cas.
Et puis, ça rentre dans une prise en charge globale où on va faire attention à sa personne et prévenir les désagréments, les petits désagréments de la grossesse. Alors ensuite, dans les produits médicamenteux qui ont une réelle efficacité, il y a un produit dont il faut qu'on parle, c'est la vitamine A acide qu'on appelle trétinoïne. Alors là, il y a eu des études qui ont été faites.
C'est
sur
contre,
l'intérêt...
contre l'acné, normalement.
Exactement, ouais. C'est contre l'acné et c'est une molécule qui booste le renouvellement cellulaire, qui irrite un peu la peau et qui stimule les fibroblastes et booste le renouvellement cellulaire. Il y a eu une étude qui a été faite sur un nombre de patients pas très important, mais qui a prouvé l'efficacité. Attention, c'est ça le gag, c'est que cette molécule est contre-indiquée fortement pendant la grossesse et l'allaitement. Donc c'est un produit sur prescription médicale, ce sont les dermatologues la plupart du temps qui prescrivent la vitamine A acide, mais à forte dose, 0,1%, il y a indiscutablement une récupération et une amélioration des vergetures une fois qu'elles sont installées.
Alors, vous avez dit donc évidemment qu'il y avait d'autres techniques. Là, on va passer par exemple à la radiofréquence qui est utilisée pour contre les vergetures. Expliquez-nous ce que c'est la radiofréquence.
Alors, si on parle de radiofréquence, la radiofréquence, c'est de l'énergie qui a pour but de faire chauffer la peau plus ou moins profondément. En chauffant la peau, on va chauffer ces fameuses cellules qui s'appellent les fibroblastes et on va les forcer à se mettre en mode un petit peu cicatrisation de façon à ce qu'elles fabriquent des nouvelles fibres de collagène et d'élastine. Donc c'est une technique qui a fait preuve d'efficacité. Simplement, il faut répéter, ce n'est pas une séance. Aujourd'hui, on a des radiofréquences avec ce qu'on appelle fractionné, avec pénétration dans la peau, soit par des petites aiguilles, soit en mode subablatif. Donc ça donne de la chaleur profondément dans la peau. Il faut multiplier les séances. Bon, moi, personnellement, je fais dans mon cabinet une séance par mois et j'en fais 4-5 séances.
Combien ça coûte ?
C'est cumulatif. Oh, on va dire 250 €, mais la ça dépend séance, aussi du nombre de vergetures. S'il y a juste une vergeture sous les seins, ce n'est pas le tarif. C'est un petit peu la même prise en charge que les cicatrices. Ce sont des cicatrices du derme. Et donc, tout ce qui stimule la peau peut entraîner une atténuation de ces cicatrices.
Et ça dure combien de temps, ces séances ? Est-ce que c'est douloureux en plus ? Parce que là, si vous dites
c'est pas très, très douloureux, ça chauffe un petit peu. Ça dure combien de temps ? C'est fonction de la quantité de vergetures.
Si j'en ai trois de chaque
sein,
10 minutes.
D'accord. Et puis à côté de ça, il y a également tous les lasers ablatifs, micro-ablatifs.
On y vient. Les lasers contre les vergetures, comment ça marche, ça ?
Alors,
il y a plusieurs lasers, vous dites déjà.
Oh, oui, il y a énormément de techniques aujourd'hui. C'est essentiellement ce qu'on appelle les lasers ablatifs et micro-ablatifs qui vont améliorer la surface de la peau. Donc, ça améliore le visuel de la vergeture. Et en même temps, pareil, ça chauffe et ça stimule le renouvellement cellulaire.
Donc, ça améliore l'effet un peu fripé que peuvent avoir les vergetures parfois.
Ça donne un remodelage de la peau. On va avoir une densité de la peau qui est plus dense, une amélioration de la surface de la peau. Et les meilleurs résultats aujourd'hui, c'est en combinant plusieurs techniques. On peut combiner radiofréquence et laser, ablatif, micro-ablatif. On peut combiner peeling et radiofréquence. Pareil, le peeling.
Ah bon, le peeling, juste un. Le peeling, c'est un gros gommage, mais je me trompe peut-être.
Il y a peeling moyen, superficiel,
voilà.
Profond.
Mais là, quel peeling qu'on combine ?
On va prendre des peelings. Alors, moi, personnellement, je n'en fais pas parce que j'aime mieux la radiofréquence, mais il y a des médecins qui ont des résultats avec un peeling au TCA, ce qu'on appelle l'acide trichloracétique, qui est un peeling moyen. Il faut quand même aller irriter un petit peu la peau, toujours dans ce même esprit d'aller stimuler le fibroblaste.
Jimmy.
Et le laser, vous pouvez le faire sur toutes les parties du corps ou il y a certaines zones, je ne sais pas, par exemple les seins, où c'est un peu plus...
Jimmy, ça l'intéresse pour le bas du dos, je crois, il m'a dit.
Vous êtes culturiste. J'avais cru ne pas comprendre.
C'est une blague.
Mais du coup, on peut faire partout du laser ?
Oui, on peut faire partout du laser, absolument. Absolument.
Et c'est douloureux aussi ou...
Alors, ça dépend aussi du type de laser. Là, on n'est pas dans les lasers avec une couleur, donc on n'est pas limité par la couleur de la peau.
Vous dites pas non à la question, c'est douloureux, donc ça doit faire un petit peu...
Ça dépend du type de laser. Ouais. Oui, ça peut... les lasers, en général, c'est pas sans douleur. La radiofréquence, c'est beaucoup plus confortable, mais on a à notre disposition des crèmes anesthésiantes qui permettent de rendre tous ces actes complètement
supportables. Un peu ce qu'on met avant un vaccin, là, c'est ça, les petits patchs, là, ou ce genre de choses, c'est ça ?
Exactement.
Et là, donc, du coup, la douleur est atténuée. Faut mettre...
ouais, voilà, et le coût est similaire à celui de la radiofréquence ou ça coûte un peu plus cher le laser?
Ça dépend essentiellement de la surface de traitement. Mais c'est... oui, ce sont des séances, on va dire, globalement, qui coûtent 300 euros.
Et pareil, une fois par mois, pendant 6 mois, ou il faut en faire plus?
Alors, c'est toujours cumulatif. C'est-à-dire que plus on en fait, plus le résultat attendu est important.
Après, si on ne va pas en faire 200 non plus.
Non, on
ne
va pas en faire 200, mais on va
pas,
dire que si
pas.
On veut vraiment ouais. avoir une amélioration de ces vergetures, en cumulant différentes techniques, il faut 4-5 séances.
Donc, de votre expérience, les patientes qui ont le plus de vergetures, qui s'en plaignent et qui n'aiment pas ça, qui veulent s'en débarrasser, avec vous, toutes vos techniques, là, elles, dans quoi? En 6 mois, elles arrivent un peu à atténuer
ça?
En
6 mois. Alors, ouais. toujours aussi, bien prévenir les patientes que les résultats, ils sont différés puisque c'est de la stimulation. Donc, on fait par exemple une séance de radiofréquence subablative et on a les résultats 2 mois après, puisqu'il faut que le fibroblaste fabrique ces nouvelles fibres.
Ah oui, donc en sortant de votre cabinet, on n'a aucun résultat.
On n'a aucun résultat.
Il ne faut pas s'étonner, c'est normal.
Alors, on a un petit résultat parce que la radiofréquence contracte les fibres de collagène. Ça chauffe et ça contracte. Donc, on a un effet de lissage et d'œdème, oui. si vous voulez, qui peut éventuellement être passager sur l'aspect fripé. Mais le résultat définitif, il faut attendre un mois ou deux.
Merci beaucoup, docteur Netter, d'être venu sur notre plateau nous détailler toutes les techniques qu'on peut proposer aujourd'hui aux patients qui ne supportent plus leur vergeture. On a une meilleure idée maintenant de ce qui ne fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, justement. Merci encore.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de ces pensées parasites qui peuvent parfois nous perturber durant les rapports sexuels. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans le studio. C'est Catherine Blanc donc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Vous la connaissez tous, qui nous écoutez aujourd'hui, évidemment. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on répond à la question de Liliane. Je vous lis sa question. Donc, alors que je suis en train de faire l'amour, il m'arrive souvent d'être perturbée par des pensées parasites qui me bloquent complètement. Tel le regard sur moi d'un parent, que se passe-t-il? Comment y échapper? Alors Catherine, ça peut être quoi par exemple ces pensées parasites que cite Liliane?
Alors je ne sais pas celle de Liliane, mais il arrive souvent effectivement que des patients témoignent de la grand-mère qui rentre dans la chambre et regarde, ou le père qui dirait que ce n'est pas bien ce qui se passe.
Elles imaginent
la mère
ça,
qui...
ouais.
Absolument, c'est-à-dire tout d'un coup le cerveau se met en mode d'observation de des interdits en quelque sorte, imagé par la présence d'un parent, que le parent ait été d'ailleurs celui qui a posé des interdits ou qu'il ait soit imaginé ayant posé des interdits.
Ça arrive à beaucoup de personnes. Ça, c'est pas un truc plutôt féminin de un peu penser à autre chose de temps en temps ou est-ce que...
Alors, c'est encore différent.
Ça touche aussi les hommes.
Alors, c'est différent. Il y a effectivement penser à autre chose qui est une façon d'être ou rattrapé par ses urgences de la vie du quotidien, par exemple, comme faire sa liste de courses.
Mais là, c'est pas ça. C'est des pensées un
là,
peu...
Là, c'est plutôt... Ouais. C'est, en fait, quand nous faisons l'amour, inévitablement, nous convoquons une somme de fantasmes de façon tout à fait inconsciente, hein, puisque notre sexualité, c'est des désirs de relations de pouvoir, des excitations, quand je dis relations de pouvoir dominant ou dominé, des excitations liées à ces positions, et évidemment que cela rappelle toute notre construction dans nos liens avec nos parents, dans le regard que l'on a eu, on a posé sur la relation du père et de la mère, ou de leur regard sur nous, ou de notre regard sur eux, et puis plus largement, de la famille, les oncles, tantes, grands-parents, selon évidemment la proximité de ces personnages dans notre histoire. Donc, quand nous faisons l'amour, comme ce sont nos fantasmes qui sont à l'œuvre, de façon tout à fait inconsciente, il arrive que certains de ces fantasmes remontent au niveau de la conscience et parfois les interdits liés à ces fantasmes et donc les personnages en question.
Jimmy ?
Mais on peut avoir ces pensées parasites même si on n'a pas une sexualité, on va dire, déviante, c'est-à-dire dans le cadre de sexe, on va dire, conventionnel, avec son conjoint ou sa conjointe légitime, on peut malgré tout être parasité par la pensée d'un parent.
Oui, absolument, parce que ce n'est pas parce que je suis adulte et que je suis en train de faire l'amour et donc, a priori, tout à fait légitime à être dans cette position, que je ne me vis pas du point de vue de l'enfant qui a des pensées sexuelles. Et du coup, c'est l'enfant qui convoque la relation aux parents. Donc, je pense par exemple à une patiente qui faisait l'amour le plus simplement du monde et le plus classiquement du monde, qui tout d'un coup voyait systématiquement la porte s'ouvrir, l'imaginait la porte s'ouvrir et, oui. Un parent rentrait en disant « mais qu'est-ce que tu fais là ?» comme si elle était adolescente, prise en flagrant délit de faire l'amour pour la première fois. Et c'était une femme très inquiète, et c'est d'ailleurs pour ça que sa sexualité était vraiment très très classique, parce qu'elle avait peur de toute excentricité qui aurait pu être la révélation de son excitation de femme, de son désir de femme, et il fallait la réduire le plus simplement du monde pour essayer d'y accéder sans justement que la porte ne s'ouvre.
Et ça, c'est des traumatismes ou je ne sais pas, des blocages qui remontent à l'enfance quand même.
Absolument.
Hein, quand on arrive dans des situations aussi sérieuses que celles que vous décrivez.
Oui, ce sont souvent parce que les parents ont posé beaucoup de jugements. Par exemple, là en l'occurrence, c'était des jugements sur la féminité. Mais comment tu t'habilles? Mais tu en dirais une pute, etc. Donc, ces phrases posées par des parents ou des grands-parents qui, du coup, font la terreur de la jeune femme, en l'occurrence.
Qui reste bloquée avec ça.
Absolument. Hein, ouais. Et qui a peur de révéler tout désir ou toute excitation.
Jimmy ?
Vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que ça peut être l'équivalent d'un trouble anxieux, finalement, qui se manifeste au moment du rapport, mais qui va au-delà du rapport sexuel ?
Oui, bien sûr. Ce n'est pas la sexualité, enfin, le rapport, ce n'est pas lié à l'homme, à sa façon qu'il aurait de faire l'amour, ce n'est pas lié à ce qui se joue entre l'un et l'autre. C'est vraiment une histoire très personnelle, une anxiété qui remonte à la surface à l'occasion du sujet qui est sexuel. Mais ça peut se jouer aussi dans la façon de s'habiller, dans la façon de se mouvoir dans la rue ou d'être en situation, d'être vu, observé, etc. Mais dans la sexualité, a fortiori, puisque là, c'est tout le genre remis en question par le cadre familial qui se rejoue à ce moment-là.
Pour terminer, elle nous demande comment se sortir de tout ça. J'imagine que là, il faut lui conseiller de consulter quand même, non ?
Oui, c'est de comprendre quelles sont les origines de ces interdits qu'elle fait, qu'elle réactualise et faisant jouer d'ailleurs à des personnages qui sont peut-être pas aussi tyranniques qu'elle l'a bien voulu le penser, mais qu'elle a intégré comme ça pour s'en libérer, bien évidemment.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve lundi pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, vous retrouvez Philippe Googler avec son émission Et si on partait, 2 heures d'évasion, 2 heures de voyage au bout du monde, mais aussi en France. Vous allez vous régaler, j'en suis sûre. Alors je vous souhaite une très belle émission.